RCF. La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Jean-Luc Outrette,
Marie-Pierre Desfossés,
Sylvie Chanfraud,
Malou Lebars, et merci à Guilhem Thienot qui nous accompagne à la technique. Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez et qui allez peut-être pouvoir entendre cette parole du livre d'Isaïe. Nous sommes dans le Premier Testament, au chapitre 42 et 43 du livre d'Isaïe. Donc nous sommes dans le deuxième Isaïe et cette partie-là concerne la situation du peuple de l'Alliance qui a sans doute pris des chemins assez éloignés de ce qui étaient les chemins de la loi du Seigneur. Et nous avons dans une précédente émission lu la partie qui va du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 42. Et aujourd'hui, nous vous proposons de lire le début du chapitre 43. Mais tout cela, ça fait un ensemble qui a sa cohérence, hein, puisque on voit bien que les choses se correspondent de la fin du chapitre 42 au début du chapitre 43. Alors, nous vous proposons d'entendre encore aujourd'hui la lecture de ces deux passages.
Vous les sourds, entendez. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui était aveugle sinon mon serviteur? Qui était sourd comme mon messager que je vais envoyer? Qui était aveugle comme le réhabilité? Qui était sourd comme le serviteur du Seigneur? Tu as beaucoup vu, mais tu n'as pas retenu. On a les oreilles ouvertes, mais on n'entend pas. Le Seigneur s'est plu à cause de sa justice, à rendre sa loi grande et magnifique. Mais voilà un peuple pillé et ravagé. On les a tous séquestrés dans des fosses. Dans des maisons d'arrêt, ils ont été dissimulés. Ils étaient voués au pillage, et nul ne les délivrait. Voués au ravage, et nul ne disait « restitue ». Qui parmi vous va prêter l'oreille à ses dires, être attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au ravage, Israël au pillard? N'est-ce pas le Seigneur, lui envers qui nous avons commis des fautes, lui dont on n'a pas voulu suivre les chemins et dont on n'a pas écouté la loi? Alors, il a déversé sur Israël la fureur de sa colère. Le déferlement de la guerre. Elle l'a incendié tout autour, sans qu'ils veuillent rien reconnaître. Elle l'a calciné en plein milieu, sans qu'ils prennent rien à cœur.
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva, en échange de toi, du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids, et que moi je t'aime. Je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en échange de ta personne. Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai « Donne !» et au midi, « Ne retiens pas !» Fais revenir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom et que j'ai, pour ma gloire, créé, formé et fait. Faites sortir le peuple aveugle, mais qui a des yeux, les sourds qui ont cependant des oreilles.
Peut-être pouvons-nous espérer être des sourds qui ont quand même des oreilles, des aveugles qui ont quand même des yeux, puisqu'il s'agit apparemment d'être dans ce peuple-là qui fait alliance, avec lequel le Seigneur fait alliance. Dans une précédente émission, nous avions donc lu la finale du chapitre 42, et nous avions vu que dans cette partie-là, on pourrait dire qu'il y avait de la confusion, on ne savait pas trop qui parlait à qui par moment, hein, voilà, et donc comme si c'était quelque chose de difficile à discerner, hein. Et donc on avait émis l'hypothèse aussi que entendre alors qu'on est sourd et puis essayer de voir alors qu'on est aveugle, ben c'est peut-être cette difficulté-là qui s'exprimait aussi avec le fait qu'on passait d'un singulier au pluriel, d'un « il » à un « tu » au peuple, à Israël. Donc, voilà. Et puis surtout, nous avions souligné que c'était une espèce de dialogue, un jeu entre Yahvé, le Seigneur et son peuple, mais sur le registre de l'incompréhension. De l'incompréhension, du fait que le peuple ne veut pas voir, ne veut pas entendre, ne veut pas garder la parole du Seigneur. Et puis, la fin de ce passage-là, c'était quand même la description d'un lieu particulier dans lequel se trouve le peuple, dans lequel ils sont tous enfermés. C'était dans les fosses, hein. Donc c'est un peuple qui a été voué au pillage, les adversaires les ont complètement dépouillés, la guerre les a brûlés, et puis c'est là qu'arrive, au creux même de l'adversité la plus grande, qu'arrive en quelque sorte un nous qui reconnaît avoir commis une faute vis-à-vis du Seigneur. Donc, alors, on peut peut-être faire l'hypothèse aussi que, bien, il n'y a que de ce lieu-là, de lieu du malheur, finalement, où on a l'impression qu'on est abandonné de tous, que personne ne peut venir nous sauver. C'est peut-être à partir de ce lieu-là qu'une parole de salut peut s'entendre, hein, donc voilà. Alors, on va relire ce début du chapitre 43 avec ce début-là du verset 1. « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé Israël, ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Mais maintenant.
Il y a un effet de basculement, en fait. On sent que c'est une étape, et on peut voir que cette partie-là, en fait, elle peut être lue un peu en miroir par rapport à la première partie. La première partie, premier chapitre était pessimiste, et là, on sent que c'est tout de suite un petit peu plus lumineux. Donc, dès le début, on sent qu'il y a une bascule.
Oui. Et donc, il semblerait que ce soit un présent très très fort, même maintenant, c'est plus du tout la même situation. Maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre là, pour l'avenir.
Oui, déjà, on sait qui parle.
Oui.
Par rapport à la première partie où on ne savait pas très bien qui parlait. Là, par contre, c'est bien le Seigneur Dieu qui s'adresse à son peuple.
C'est le Seigneur Dieu qui dit, moi, je suis ton créateur, Jacob. Je suis ton formateur, Israël. Alors, quand on dit « je suis ton créateur, ton formateur », quand on dit « c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé », il y a quand même une relation forte entre les deux.
Très forte, oui.
Il s'adresse à un « tu » qui est à la fois Jacob et Israël. Alors, on peut repréciser peut-être ce qu'on entend dans ces deux expressions-là. On avait déjà rencontré ça au verset 24 du chapitre précédent, mais pourquoi ces deux appellations-là du peuple?
Ben Jacob, il est question du fils de la promesse.
Oui, mais en même temps, donc, qu'est-ce que ça dit ici que si on évoque en quelque sorte le fils de la promesse?
En l'occurrence, c'est après l'épreuve également que Jacob va devenir Israël, en fait. Il sera passé lui-même par une épreuve, donc... C'est pour souligner cette transformation qui peut s'établir de la même manière que ça s'est passé pour le personnage de Jacob, ça se passe aussi pour le peuple.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans leur enfermement, il y aura comme quelque chose qui va permettre qu'ils soient libérés. Hein. Donc c'est un voilà. Et puis donc on dit aussi dans la bouche du Seigneur, ne frémis pas, n'aie pas peur. Oui, c'est... je t'ai racheté. Je crie ton nom, je dis ton nom. C'est moi qui t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça nous rappelle peut-être quelques expressions de la fin du chapitre 42 aussi, non? Quand on... Oui, je t'ai racheté.
Oui.
Comment est-ce que le Seigneur parlait au chapitre 42? Il disait, qui était aveugle, sinon mon serviteur? Qui était sourd comme mon messager? Qui était aveugle comme... Le racheter.
Comme l'acquitter, oui.
Le réhabiliter, le libérer, enfin, on peut dire ça comme ça.
Oui, puis il n'y a aucune condition au rachat.
Non, ici, c'est posé comme ça. Voilà. Donc, et je dis ton nom, c'est moi qui donne ton nom. C'est beau, ça aussi, non?
Oui, c'est-à-dire que ça souligne une fois de plus que quand on appelle quelqu'un par son nom, c'est on le considère, en fait. Il existe aux yeux de Yahvé.
Oui, voilà. Et ça aussi, tu es à moi. Donc, on avait souligné dans l'émission précédente qu'au verset 21 du chapitre 42, on avait cette idée aussi, le Seigneur désire, quoi. Le Seigneur sait plus à manifester sa loi, mais il y avait du désir de la part du Seigneur. Et donc, on a cette expression du désir ici. Moi, je crie ton nom, on peut traduire comme ça. Au lieu de dire je t'appelle par ton nom, on peut dire je crie ton nom et tu es à moi. Quelque chose de l'ordre d'une relation inouïe quand même. Hein, voilà. Donc effectivement, si on rassemble tout ça, il y a ici, dans le chapitre 43, ce que le Seigneur va faire entendre, ce que lui, ce peuple qui s'imaginait être... abandonné dans l'adversité, donc dans tous enfermés dans des fosses, et ben en fait il va entendre qu'il a un sauveur, il a un sauveur. Mais ça nous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas que de ce lieu-là, dans ce lieu où l'on est vraiment voué à la déréliction, est-ce que ce n'est pas simplement dans ce lieu-là qu'on peut entendre après véritablement qu'on est quand même libéré et qu'on est sauvé du malheur. Il faut être passé par là,
oui,
par l'épreuve.
Peut-être qu'on ne peut plus se sauver soi-même, ou du moins on comprend qu'on ne va pas y arriver de ses propres forces.
Non.
Et du coup, effectivement, on va être capable sans doute de pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre, en fait,
Voilà. Donc, il y avait qui dit, qui se dit le créateur de Jacob et d'Israël, le formateur, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Bien, il y a une relation qui semble ne jamais pouvoir s'éteindre en quelque sorte. Alors, le verset 2, donc, nous dit, voilà, si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alors, dans ces versets-là, qu'est-ce qu'on souligne là, donc, est-ce que le peuple de l'Alliance qui entend le Seigneur lui dire « Moi, je t'ai racheté, tu es à moi », est-ce qu'il va être complètement, libéré au point de plus avoir d'épreuves et de plus avoir de malheurs ?
Non, les épreuves ne sont pas supprimées pour autant.
Voilà. C'est effectivement, si on dit tu passes dans les eaux, bah, elles sont là quand même, les eaux peuvent submerger. Mmh. Mais tu vas passer, car moi, je suis avec toi. Mmh. C'est beau ça, hein ? Les fleuves ne vont pas t'inonder. Si tu marches au milieu du feu, bah, il peut y avoir beaucoup de feu dans nos vies, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des choses qui nous brûlent, qui sont difficiles. Mmh. Donc, voilà. Donc, eh ben non. Ça ne va pas nous calciner. La flamme ne va pas nous brûler. Ça on peut peut-être aussi évoquer dans le Nouveau Testament des phrases que Jésus peut dire à ses disciples, non ? Qu'est-ce qu'il leur dit, par exemple ? Quand il les envoie en mission, il leur dit, en fait, vous serez pas, les épreuves ne vous seront pas épargnées, mais les scorpions, les vipères, tout ce qu'on veut, ne vous atteindront pas. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'on a besoin de se redire ces paroles-là tout le temps. Nous ne serons pas inondés, nous ne serons pas dévorés par les flammes. Et donc, voilà, moi, le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui suis ton sauveur. C'est quand même... En fait, la question qui se pose, c'est pour Israël, tant qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin d'un sauveur, ils pouvaient marcher loin des chemins du Seigneur. Mais finalement, l'expérience d'avoir été touché, atteint, écrasé en quelque sorte par le malheur, oui, comme vous disiez, Jean-Luc, il a besoin d'être sauvé. Le Seigneur, le Seigneur, c'est le Saint d'Israël, c'est lui, qui sauve. Et puis donc, nous allons peut-être faire une petite pause musicale avant de terminer l'étude de ce passage. Nous reprenons notre lecture du début du chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Donc le Seigneur vient en quelque sorte, je l'entends presque comme une lettre d'amour du Seigneur à son peuple. Hein, voilà, je suis ton créateur, c'est moi qui t'ai formé, tu es à moi, tu ne risques rien avec moi, je suis avec toi. Mais nous avions souligné aussi que les épreuves ne seront pas supprimées pour autant, mais le peuple pourra marcher, pourra traverser l'épreuve. Hein. Voilà, je suis ton sauveur. Et je reprends donc à la seconde partie du verset 3. J'ai donné pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva en échange de toi, du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime. Je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en échange de ta personne. Ça peut nous sembler un peu étrange et peut-être difficile à entendre, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
À la fois, cette notion d'acquitté, on l'avait eue dans la fin du chapitre 42, on s'était déjà posé la question, effectivement.
Et là aussi, dans le début, verset 1.
Et là également, effectivement, dans le premier verset de ce chapitre, la notion de racheter. Donc, ça fait écho, en fait, à ce rappel de cette notion de rachat. Et là, effectivement, donc, il est beaucoup plus précis, hein, le Seigneur Dieu. Il me dit, j'ai donné donc pour ta rançon l'Égypte, donc la Nubie et Séba. Donc,
Alors peut-être qu'on peut aussi se poser des questions. Ça représente quoi, l'Égypte, la Nubie et Séba?
Ce sont des figures. C'est une figure. L'Égypte, on retrouve cette Égypte de Pharaon, en fait, cette Égypte, voilà, qui est toute puissante, qui compte sur sa propre force.
Ça rappelle les lieux d'esclavage, donc oui. En fait, ça fait le parallèle aussi avec l'enfermement et que l'on a vu dans la dernière partie.
Oui, et puis donc en fait, c'est le pays de Cush, enfin la Nubie, hein, c'est les pays de toute façon qui représentent ce qu'on pourrait dire notre monde tel qu'il est, tel qu'il tourne.
Qui compte sur lui, qui compte sur ses propres forces, qui est matérialiste en quelque sorte.
Qui fonctionne, etc., qui n'a pas besoin de sauveur. Et donc là, on pourrait entendre aussi, j'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, on pourrait comprendre, j'ai donné pour ta rançon l'Égypte, la Nubie et Séba, sous toi, donc c'est-à-dire que sous ta domination en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ça sera de la part du peuple de l'Alliance, de Jacob Israël, une domination qui va écraser les autres, mais ça nous rappelle toujours l'histoire des fils de la promesse. Hein. Par exemple, Jacob et Ésaü, c'est Jacob qui a la primauté et Ésaü devra se mettre à son service. Donc c'est la libération des fils de la promesse ou la libération de Jacob Israël. C'est le fait que désormais tous les autres peuples qui ne représentent pas cette partie là qui est soulignée par le Seigneur quand il dit qu'il l'aime, eh bien c'est tout ce qui dans notre monde est en dehors de cette alliance là, si on veut, eh bien devra se mettre au service. Au service de ici c'est de Jacob Israël, hein, donc je donne donc des hommes en échange de toi, des hommes au sens de fort, quoi, je donne l'humanité dans son sens le plus négatif, on pourrait dire ça comme ça, hein, donc voilà, et puis donc je donne des populations en échange de ta personne. Il faudrait pas imaginer que le Seigneur fasse un tri. Il y a des peuples qui sont bons et d'autres qui sont pas bons. Non. Ça serait la catastrophe. Mais ça rappelle un peu la phrase de l'évangile. Jésus qui dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Eh bien, ce que ici, le Seigneur dit qu'il a donné en rançon à la place de son peuple, c'est tout ce qui représente ce monde-là, quoi, ce monde-là qui, comme vous disiez, qui compte sur lui-même, qui n'a pas besoin d'être sauvé.
Qui est très terre-à-terre, et d'ailleurs le terme qui est utilisé pour les hommes, Malou, c'est Adam, donc on voit bien de quoi il s'agit, le glaiseux, en quelque sorte.
Tout à fait.
Voilà.
Donc là, il y a comme une espèce d'évocation pour dire, en fait, les choses sont en place, quoi, puisque cette part du peuple de l'Alliance qui a une relation si profonde avec le Seigneur et qui accepte d'être sauvée, c'est celle-là qui est première et toute l'autre part de l'humanité doit se mettre en dessous et au service, en quelque sorte.
Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si chacun d'entre nous n'est pas également un petit peu dans cette disposition, en fait, à être écartelé entre, effectivement, notre part la part de nous-mêmes qui est dans l'Alliance et celle qui reste un peu trop terre-à-terre, un peu trop dans les choses de ce monde.
Oui, tout à fait. Nous sommes traversés par tout cela, mais nous entendons quand même, parce que on a vu que sous tout ce chapitre 43, le début, c'était en miroir de tout ce qui était un peu négatif dans la première partie que nous avons vu dans une précédente émission. Eh bien, là, tout ce positif, là, quand le Seigneur dit « Tu es cher à mes yeux, moi je t'aime », eh bien, c'est quand même cette parole-là qui doit rester aussi en nous, quoi, qui doit nous habiter.
Oui, parce qu'il dit même « Tu as été glorifié », parce qu'en fait, ce que nous sommes, c'est le poids que Dieu nous donne.
Oui, tout à fait.
C'est quand même fort.
Oui, c'est très très fort, hein, dans cette alliance-là. Alors, je continue là, pour finir avec notre passage. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai donne. Et au midi, ne retiens pas. Fais revenir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui sont appelés de mon nom et que j'ai pour ma gloire, créés, formés et faits. » Ça aussi, c'est superbe quand même. Hein, donc,
quelle universalité.
Oui, voilà. Donc,
c'est le rassemblement des fils et des filles.
Oui.
Le levant, depuis le levant, depuis le couchant, au nord et midi, c'est en les quatre points cardinaux. Et les quatre points cardinaux sont presque personnifiés ici. Et c'est eux qui doivent faire en sorte que le peuple revienne et soit rassemblé. Hein, donc, mais c'est le Seigneur qui rassemble. Je te rassemblerai. Hein, donc, au nord, je dirais donne. Au midi, ne retiens pas. Donc, rend. Hein, voilà, le fait de rendre. Hein, donc, et ça, c'est très beau aussi. Et parfois, on pourrait imaginer que le salut d'Israël, il n'est réservé qu'à Israël. Voilà. Or, toute la Bible dit que non, c'est pour tous les peuples.
Voilà. Et ça, c'est formidable.
Et qui plus est, rappelons-nous ce qu'il y avait dans le passage précédent. Jacob Israël est sauvé, il n'est pas simplement sauvé pour lui-même, il est sauvé dès le départ, il est acquitté dès le départ, mais pour être témoin pour les autres nations, que tous peuvent être des fils et des filles qui soient rassemblés. Et nous, pour nous, c'est le Christ aussi qui rassemble. Hein, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc voilà, nous sommes appelés à être des témoins pour d'autres de ce qu'il en est du divin, de la présence du divin au cœur de l'humanité. Nous faisons l'expérience d'être sauvés pour que d'autres puissent aussi faire cette même expérience. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.